Salut, salut, je suis Magabo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce podcast, le podcast du leadership gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que les leaders font pour prendre de la hauteur, hein, adopter à chaque fois l'attitude supérieure face aux provocations, aux défaillances, au risque de frustration qu'ils pourraient avoir face à l'attitude de leurs collaborateurs ou à l'attitude des partenaires, à l'attitude des gens avec qui ils travaillent constamment. Vous savez, on aurait pu dire les seuls qui se laissent frustrer, les seuls qui peuvent être frustrés, ce sont les gens qui sont en position de faiblesse. Mais en réalité, les gens qui sont souvent frustrés, maintenant que je travaille avec de grands managers, je peux vous dire, voilà, franchement, ils ont le souffle parfois coupé, très très coupé, de voir que les collaborateurs ne comprennent pas toujours quelles sont les attentes et comment ils vont faire pour pouvoir être à la hauteur des attentes que les managers ont à leur égard. Il n'y a rien de plus frustrant et de plus désolant pour un manager que de voir que les collaborateurs ils comprennent pas et qu'en plus ils font des choses qui sont complètement en déphasage avec ce qu'on attend d'eux et qu'on a parfois l'impression qu'ils le font exprès, vous voyez. Et quand vous avez l'impression que les collaborateurs ils font l'exprès, ils ne font aucun effort, ils ne sont pas consciencieux, ils ne font rien pour être à la hauteur de vos attentes, quand vous avez l'impression que ce partenaire à qui vous avez fait confiance, il n'est en train de rien faire pour être à la hauteur de vos attentes, vous avez l'impression qu'il vous nague. Eh bien, pour tout le monde, c'est pas facile. Que ce soit les collaborateurs ou les managers, ce n'est pas facile. Et quand on veut pratiquer le leadership gagnant, il y a le fait de se dire, tiens, gagner dans les relations avec les autres, tirer le meilleur parti des relations avec les autres, ça fait partie du moins des choses que nous avons à faire pour nous dire, voilà, j'arrive à me créer les conditions de base nécessaires pour obtenir des niveaux supérieurs de résultats dans toutes les relations que j'ai avec les autres. Avant que nous puissions avancer pour voir comment est-ce que les managers font pour ne pas tomber dans la frustration face aux défaillances des autres, je voulais tout simplement vous demander, est-ce que vous comprenez qu'il y a un lien de cause à effet entre votre capacité à ne pas vous énerver, à ne pas perdre le contrôle de vos émotions et le fait d'être en bonne santé? La capacité à manifester constamment de la bonne humeur face aux réactions, aux attitudes des autres, que c'est bon pour notre santé. Parce que parfois, nous oublions et nous perdons de vue que le fait que nous ne soyons pas toujours en très très bonne santé, c'est essentiellement lié au fait que ce n'est pas toujours que nous faisons des efforts essentiels pour dire, ok, je veux me sentir bien dans ma peau. Vous savez, se sentir bien dans sa peau, c'est une décision que le leader prend à son niveau, quels que soient les événements qui se déroulent. C'est une décision personnelle qu'il prend. Je suis en train de travailler actuellement sur un livre qu'on appelle le jeu intérieur du leadership. Vous en aurez de plus amples informations très très prochainement. Et dans ce livre, nous voyons clairement que le leader peut pratiquer une méthode extraordinaire qu'on appelle la méthode de la construction délibérée, où ce que les autres font, ce qui se passe dans l'environnement, dans son micro-environnement, ce que les autres essayent de faire, il décide clairement que cela ne va avoir absolument aucun impact sur lui. Et il est de notre responsabilité en tant que manager, en tant que leader, de dire, je veux créer mon monde intérieur, je veux créer ce monde parfait qui est imperturbable. Et l'attitude des autres, quand ça tente de pouvoir à m'influencer, je travaille à ne pas me laisser influencer. La plupart du temps, quand les collaborateurs ne font pas ce que nous attendons d'eux, les collaborateurs ne font pas ce qui est à la hauteur de nos attentes à leur égard, nous avons tendance à nous dire, ben voilà, il faut que je puisse le virer, il faut que je lui montre que, il faut que je tape du poing sur la table. Le challenge, c'est que parfois, nous nous mettons en spectacle. Je ne suis pas sûr que nous puissions augmenter notre niveau d'influence et notre capacité à gagner avec les autres, à réussir avec les autres, en nous mettant constamment en spectacle. Il y a autre chose à pouvoir faire. Et cette chose-là suppose que nous puissions commencer par mener une vie intérieure, une vie centrée essentiellement sur les objectifs que nous voulons avoir. Que nous puissions donner priorité aux résultats que nous voulons avoir avec les autres. Que nous puissions donner priorité à ce sur quoi nous travaillons. C'est comme, par exemple, vous comptez sur un collaborateur pour respecter une échéance et que ce collaborateur n'a pas été à la hauteur de l'échéance et bien la catastrophe est en face de vous, la déchéance peut-être est en face de vous et vous décidez non, ce n'est pas de la déchéance. Je comprends tout simplement que j'aurais pu l'accompagner mieux, j'aurais pu l'accompagner davantage, j'aurais pu être avec lui, j'aurais pu créer des séances de suivi, d'évaluation, de revue du travail que je lui ai donné pour ne pas être en train d'être le médecin après la mort. Le leader a cette capacité extraordinaire à revenir vers lui, et à mener cette vie à partir de l'intérieur, à créer les conditions externes à partir de l'intérieur, à influencer les conditions externes à partir de l'intérieur, à influencer l'attitude des collaborateurs à partir de l'intérieur. Et comme je dis dans ce livre, le jeu intérieur du leadership, vous aurez la possibilité d'avoir des outils très simples, des méthodes que les grands leaders utilisent. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler de cette méthode première, de la gestion des frustrations, comment gérer les différences des autres sans être atteint émotionnellement, comment réussir à créer un filtre, une sorte de bouclier qui fasse que, quelle que soit l'attitude des autres, quel que soit ce que les autres font, vous n'êtes pas atteint, vous n'êtes pas influencé négativement, vous restez concentré sur vos objectifs, vous restez concentré sur le besoin de vous sentir bien dans votre peau pour garder le niveau d'inspiration, de connexion nécessaire qui vous permette de, à la fin de la journée, de produire le type de résultat que vous voulez produire avec les autres. Alors, comment est-ce que je fais lorsque les collaborateurs parfois ont des déséquilibres, ont des déchéances, ont des défaillances, font des choses qui pourraient peut-être créer de la frustration à mon niveau, je réussis à prendre de la hauteur et ne jamais tomber dans le piège de m'énerver, ne jamais tomber dans le piège d'être atteint émotionnellement, ne jamais tomber dans le piège d'être contaminé émotionnellement. Alors, la première chose importante à faire ici, c'est de moduler mes exigences à l'égard des autres. Moduler mes exigences à l'égard des autres. La dernière fois, je parlais avec un entrepreneur qui me dit que lui, il est un homme de principe. Et qu'il a des principes clairs, qu'il aimerait que les gens puissent respecter ces principes-là. Et qu'il ne supporte pas que les gens ne respectent pas ces principes. Je lui dis, vous savez quoi, monsieur? Quand vous avez vos principes, c'est pour vous-même. Quand on a des principes et des valeurs, c'est pour soi-même. Quand on a des principes et des valeurs, c'est pour bien mener sa vie. C'est pour réguler sa vie. C'est pour s'autodiscipliner. C'est pour créer les conditions d'épanouissement personnel, les conditions d'orientation personnelle, de capacité à être constamment centré sur ses résultats. Nos règles que nous avons, nos principes que nous avons à les appliquer à nous-mêmes et non essayer de les appliquer aux autres. Pourquoi? Parce que, un, les autres ne connaissent pas nos principes. Deuxième chose, ils n'ont pas les moyens de respecter nos principes. Troisième chose, ils n'ont rien à cirer à respecter nos principes. Voyez-vous, lorsque vous travaillez avec un collaborateur, vous travaillez avec un partenaire, il a ses principes à lui, il a son éducation, il a sa façon d'être et de faire les choses, il a sa vie, il a son expérience. Donc vous ne pouvez pas dire, tiens voilà, je vais lui imposer ma façon d'être et de faire. On ne peut pas imposer sa façon d'être et de faire aux autres. Et c'est lorsque nous espérons pouvoir imposer nos règles, imposer nos façons de faire et d'être aux autres, que nous sommes souvent déçus. Nous voyons qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Vous savez, la frustration à la fin de la journée, c'est lorsque nous avons des attentes à exagérer à l'égard des autres. Quand vous avez des attentes exagérées à l'égard des autres, il va de soi qu'ils vont naturellement et très souvent ne pas respecter vos attentes. Et donc, quand on est déçu face aux attentes exagérées qu'on a à l'égard des autres, quand les autres ne réussissent pas à être à la hauteur de nos attentes, bien, on se retrouve à être déçu. Et cette déception va créer de la frustration. Et cette frustration va naturellement bouffer constamment notre énergie. Et comme le leader doit être le premier manager, le premier allocateur de son énergie, et qui doit se poser à chaque fois la question de savoir qu'est-ce qui vaut la peine que je mette mon temps, mon argent, mon énergie là-dedans. Donc, lorsque les gens ne sont pas à la hauteur de ces exigences, il doit se poser clairement la question de savoir est-ce que je n'avais pas trop d'attentes à l'égard de ceux-ci? Est-ce que les attentes que j'avais à leur égard n'étaient pas trop exagérées? Est-ce que je ne peux pas moduler un petit peu mes exigences à leur égard? Est-ce que je peux pas me dire, oui, ils seront mieux placés, je suis mieux placé pour respecter mes règles que les autres ne le sont? C'est moi qui suis la première personne à tout faire pour pouvoir respecter mes principes. Je les connais mieux que les autres. Je sais pourquoi ils sont importants pour moi. Et si je n'ai pas coaché une personne, si je n'ai pas travaillé à m'assurer de ce qu'une personne ait les mêmes principes que moi, partage la même vision que moi, il va de soi que cette personne a des normes différentes, cette personne a des principes différents, cette personne a des valeurs différentes. Donc il va de soi qu'elle viole mes principes. Il va de soi qu'elle ne soit pas à la hauteur de mes principes. Vous savez, en général, quand une personne vient en retard à un rendez-vous que j'ai avec cette personne, je ne suis jamais énervé. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, elle ne sait pas que c'est important d'être à l'heure. Vous voyez? Même si la dernière fois, je lui avais dit que c'est important d'être à l'heure, nous sommes en début de relation. Parfois, nous nous énervons contre des gens, à l'égard des gens, et nous sommes juste en début de relation avec les gens. Donc, quand on est en début de relation avec une personne, cette personne ne connaît pas encore vos valeurs. Elle ne connaît pas encore vos principes. Donc, il est normal que cette personne ne puisse pas les respecter. Donc, quand je renvoie avec une personne et que la personne se pointe en retard, je me dis, ouh, La personne a, c'est tellement pas pour valeur d'être sérieusement à l'heure. Ou bien je dis, c'est tellement qu'il est tombé dans les embouteillages. Vous voyez? Et quand je commence par le dire, je dis, OK, je vais moduler, je vais avoir moins d'exigence à l'égard des autres. Naturellement, pendant que la personne n'est pas arrivée, je décide clairement de ne pas m'énerver. Si j'ai un livre, je vais prendre le livre et je vais le lire. Si j'ai un dossier sur lequel je travaillais, et comme compte tenu du rendez-vous, j'ai arrêté de travailler sur le dossier, je retourne au dossier. Naturellement, je retourne au dossier. Et quand la personne vient maintenant, la personne va être en face de moi. Nous allons faire notre rendez-vous. Parce que je peux pas me permettre de m'énerver du fait qu'une personne, n'est-ce pas, n'est pas en train de venir à l'heure. Ce temps que je vais utiliser à m'énerver, je préfère l'utiliser à plancher sur un dossier, à continuer à poursuivre un projet, ou lire un livre, ou écrire un article. Moi, j'ai toujours un livre sur moi. J'ai toujours un ordinateur avec moi. Et j'ai toujours mon téléphone portable avec moi. Donc, si bien que j'ai des magazines, j'ai des livres audio qui sont sur à mon téléphone portable. J'ai la possibilité d'écrire des livres. J'ai des livres que je suis en train d'écrire. Et je peux poursuivre de les écrire sur mon téléphone portable. Et je vais pas m'énerver du fait qu'il y a une personne qui soit pas venue à l'heure. Si la personne n'est pas venue à l'heure, je me concentre sur mon téléphone portable. Et je dis, OK, je vais écrire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Je vais apprendre quelque chose. Je vais utiliser à profit mon temps. Donc, c'est à moi d'exiger de moi une bonne utilisation de mon temps. Et quand l'autre ne sait pas utiliser mon temps et n'est pas venu à l'heure, je comprends. Parce que peut-être, c'est pas une exigence pour cette personne d'être à l'heure. Elle ne sait pas que c'est absolument important d'être à l'heure quand on vient à un rendez-vous. Eh bien, je peux lui dire où ? Mon cher ami, vous êtes venu en retard. Ok, ça se comprend. Alors, il nous reste 30 minutes. Je m'impose à lui et à moi que le rendez-vous que nous voulions faire, nous le faisions dans les 30 minutes. Et donc, quand nous faisons le rendez-vous dans les 30 minutes, et on n'a pas terminé, je dis, tu sais, j'avais prévu qu'on fasse cet rendez-vous en une heure. Eh bien, vous êtes arrivé à 9h30 au lieu de 9h, mais c'est pas grave. Il nous reste juste 30 minutes. Donc, j'ai un engagement à 10h. Donc, permettez à ce qu'on ne travaille que pendant 30 minutes. Et on travaille pendant ces 30 minutes. Et là, cette personne comprend alors que quand elle a prochainement un rendez-vous avec moi, qu'elle ne vienne pas à l'heure. Si je vois que l'objectif que nous sommes appelés à atteindre ensemble ne va pas être atteint en 30 minutes, et qu'il faudrait que je lui donne 30 minutes en plus, et que je tiens absolument à atteindre cet objectif, je dois avoir la flexibilité nécessaire pour accorder ces 30 minutes, de sorte que la personne et moi, nous puissions atteindre l'objectif, à moins que l'objectif ne tienne pas à cœur. Mais une chose est sûre, je ne vais pas lui en vouloir, parce que cette personne n'a pas les mêmes exigences, les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Elle n'a pas les mêmes exigences de ponctualité que moi j'ai. Les exigences de ponctualité que moi j'ai, je les applique pas aux autres, je les applique à moi-même. Si je pense que je vais juste faire 30 minutes avec la personne et que le fait que nous n'atteignons pas les objectifs, ça m'arrange. Et que ça va permettre à cette personne qu'elle comprenne que moi, il faut être absolument à l'heure. Et que la prochaine fois, il faudrait qu'elle soit à l'heure. Il n'y a pas de challenge. Donc, je peux décider alors de lui appliquer à la lettre les principes. À condition que cela m'arrange. Et que si cela ne m'arrange pas, et ça n'arrange pas le projet sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble, je dois avoir de la flexibilité pour dire le résultat que je vais atteindre est plus important que la façon dont je me sens personnellement à l'égard du fait que cette personne n'est pas arrivée à l'heure. Du coup, si une personne vient en retard, cela ne me concerne pas. Ça ne concerne qu'elle. Je n'ai violé aucune règle. Moi, je suis arrivé en retard à l'heure. Donc, cette personne est venue en retard. Mais moi, je suis arrivé à l'heure. Et à partir du moment où je suis arrivé à l'heure, moi, j'ai respecté la règle. Donc, je n'ai pas à m'en vouloir. Et je n'ai pas à lui en vouloir parce que c'est son problème. C'est son défi. C'est lui qui n'est pas venu à l'heure. Donc, c'est pas moi qui ai un ajustement, en fait. Et du coup, si je vois clairement que cette personne vient souvent en retard, je peux m'asseoir avec elle tranquillement pour dire, tu sais, nous travaillons ensemble sur un projet et nous devons respecter, si nous voulons à coup sûr tenir dans les délais et respecter notre échéance à l'égard de nos partenaires, tu es d'accord avec moi qu'il faille que nous puissions nous voir souvent à l'heure pour que le temps dont nous disposons, nous puissions utiliser ce temps. Par exemple, nous sommes en train de travailler ensemble sur un projet avec un ami ou un partenaire et ce partenaire se pointe en retard, je peux me demander, oui, pendant qu'il n'est pas là, le temps qu'il arrive, qu'est-ce que je peux être en train de faire? Si nous travaillons ensemble sur un document de projet, on a un projet à élaborer et que cette personne n'est pas arrivée, est-ce que moi je peux être en train de créer une partie du document le temps qu'il arrive? Bon, je peux pas laisser l'objectif mourir, je peux pas perdre de vue l'objectif que nous avons atteint ensemble. Moi, je suis le leader. Je dois tenir debout et dois rester concentré sur l'objectif et ne pas laisser l'attitude et les comportements des autres me distraire de l'obligation pour cette personne et moi d'atteindre absolument le résultat que nous sommes appelés à atteindre ensemble. Si l'autre n'est pas à la hauteur, je peux décider d'être à la hauteur. Si l'autre n'est pas à l'heure, je peux choisir d'être à l'heure. Si l'autre s'énerve, je peux décider de ne pas m'énerver. Si l'autre perd le contrôle, je peux décider de garder le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il est très important pour moi que nous puissions atteindre ensemble cet objectif. La deuxième chose importante que les leaders font en général pour être sûr de ce que ils ne soient pas frustrés face aux attitudes des autres, soit face aux circonstances, c'est qu'ils s'auto-responsabilisent. C'est-à-dire, ils choisissent clairement de se dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais pu l'appeler, par exemple, j'avais un devoir, il y a une personne, et cette personne s'est pointée en retard. Est-ce que je l'ai appelé 2 heures avant le rendez-vous pour lui rappeler notre rendez-vous? Est-ce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit absolument à l'heure? Est-ce que, par exemple, je dis, ok, si t'es pas sûr d'avoir une voiture, je peux passer te récupérer chez toi pour que nous puissions aller ensemble sur le lieu où nous devons travailler ensemble. Parfois, on a un rendez-vous avec une personne, nous pouvons aider cette personne à être à l'heure. Et nous décidons clairement, dire non, mais tiens, c'est responsable, il faut qu'il soit responsable. Ok, mais est-ce que je tiens à ce que cette personne soit à l'heure? Si je tiens à ce que cette personne soit à l'heure, il faut que je lui donne les moyens d'être à l'heure. Il faut que je puisse l'aider à être à l'heure. Je suis le leader et c'est moi qui dois m'assurer de ce que je prenne toutes les dispositions nécessaires pour que les résultats que nous voulons produire ensemble soient au meilleur niveau possible. C'est à nous, les leaders, de donner les moyens aux gens de réaliser les exploits que nous voulons qu'ils réalisent. Et en tant que leader, si nous ne faisons absolument rien pour nous dire, okay, il faut que je m'assure de ce que et donne à cette personne les moyens d'être à la hauteur des défis que je veux que nous relevions ensemble. Si je ne lui donne pas l'information à temps, si je ne lui parle pas de la criticité de ce que nous avons à faire ensemble, si je ne lui parle pas de la criticité de sa contribution, parfois les gens baissent la garde et quand ils ont baissé la garde, ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous attendons d'eux. La chose importante, vous allez comprendre, c'est que lorsque une personne va au tribunal et que cette personne plaide coupable, cette personne est zen, n'est-ce pas? Cette personne est zen, cette personne est tranquille. Maintenant, lorsqu'une personne plaide non coupable, elle est sur la défensive, elle paie les moyens, elle est fragile, elle est obligée d'argumenter, elle est obligée de démontrer. Elle a une situation de fragilité émotionnelle, de fragilité mentale. Et ceci ne doit pas arriver à un leader. Et pour qu'un leader ne se sente pas victime dans une situation, il va falloir qu'il puisse assumer. Voyez-vous, quand on assume, on est zen. Quand on assume, on est zen. Quand on accuse, on est fragile. Je vous donne un exemple très simple. Vous perdez la clé de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'introspection. Et vous rentrez en vous-même et vous vous posez 1001 questions. Comment j'ai pu le faire? Où est-ce que j'ai pu mettre la clé? Vous vous concentrez pour trouver la clé. Mais il suffit juste qu'une personne perde la clé, une personne a perdu votre clé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement frustré et vous vous retrouvez victime. Pourquoi? Parce que vous êtes en situation d'accusation. Donc, lorsqu'une autre personne a perdu votre clé et vous décidez de dire, oh, wow, qu'est-ce qu'il a pu faire? Okay. Où est-ce qu'il a mis la clé? Okay. Est-ce que je lui ai remis? À quel endroit je lui avais remis la clé? Quelles sont les instructions que je lui ai données? Ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, il faut que je comprenne que ça puisse lui arriver et que je décide clairement de lui pardonner. Et quand vous commencez par faire cette introspection et quand vous faites ce qu'on appelle la décontamination interne et vous commencez par disculper l'autre personne, vous vous sentez moins victime et vous sentez moins frustré. Quand les autres ont failli, nous avons tendance à accuser. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous accusons, nous perdons le contrôle. Et quand nous perdons le contrôle, nous devenons fragiles, nous devenons vulnérables et nous devenons victimes. Vous ne pouvez être victime que lorsque vous choisissez de dire que la faute est à l'autre. Mais quand vous dites « j'aurais pu faire quelque chose », vous ne faites plus de l'autre le bourreau. Pour qu'il y ait une victime, il faut un bourreau. Si vous sentez frustré et victime, c'est parce que vous considérez que l'autre a fauté, que l'autre est en situation de bourreau, en défaillance. Et quand vous envoyez la balle dans le camp de l'autre, il arrive très souvent que les frustrations que nous avons souvent sont essentiellement liées au fait que nous réussissons à nous retrouver dans la peau de la victime. Et pour se retrouver dans la peau de la victime, il faut que nous puissions voir clairement que l'autre a fauté et que nous accusions une personne. Or, quand on assume et on se responsabilise, on dit « j'aurais pu aider ce collaborateur, j'aurais pu mieux le former, j'aurais pu mieux l'outiller, j'aurais pu mieux l'accompagner sur ce processus », eh bien, on augmente clairement ses chances de produire du résultat avec les collaborateurs. Donc, assumer pour se sentir responsable et ne pas être victime, parce que lorsqu'on accuse, on est victime, et quand on assume, on se sent zen, on fait de l'introspection, on cherche à l'intérieur de soi-même comment faire pour rebondir. Le leader a un rôle important. Comment il fait pour aider les autres à rebondir? Il est plus question pour nous de travailler avec les autres à rebondir plutôt que de les accuser. Quand nous accusons, c'est que nous disons qu'il y a un bouc émissaire. Quand nous cherchons un bouc émissaire, c'est que nous sommes la victime. Et quand nous sommes la victime, nous devenons frustrés. La troisième chose importante que les leaders font pour ne pas être frustrés, ne pas se retrouver dans la peau de victime lorsque les autres sont en défaillance, lorsque les autres ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, c'est que ils se disent clairement que il n'est pas évident que l'autre soit irréprochable. Il n'est pas évident que l'autre soit irréprochable. Quand on s'attend à ce que l'autre soit irréprochable, on dit non, mais il doit connaître son travail. Il faut qu'il fasse son boulot, là. Mais je sais pas, mais moi, il doit faire son travail, quoi. Chacun doit faire son travail. Il est quand même, c'est comme un adulte. Il doit comprendre que ces choses-là, on ne les fait pas. Ah, mais c'est quand on s'attend à ce que l'autre soit irréprochable, alors que l'autre n'a pas parfois les moyens d'être irréprochable. Ils n'ont pas toujours les moyens, les gens n'ont pas toujours les moyens d'être irréprochables. Et il est de notre responsabilité en tant que leader qui dit, ce n'est pas évident pour lui, ce n'est pas évident pour lui. Les choses ne sont pas faciles pour lui. Et parfois, nous savons très bien que nous avons plus d'expérience que l'autre. Quel leader n'a pas d'expérience plus que ses collaborateurs? Un leader, il a plus d'expérience, il a plus d'informations, il comprend plus les tenants et les aboutissants, il a plus d'outils, n'est-ce pas, que ses collaborateurs. Donc, il va de soi que la personne qui devrait être irréprochable, c'est le leader, n'est-ce pas? C'est le leader qui devrait être irréprochable, parce qu'il a plus de moyens que les autres d'être irréprochable. Et donc, si nous ne voulons pas nous énerver, nous frustrer face aux défaillances des autres, c'est dire, oh, ils peuvent fauter. Il est normal qu'ils commettent des erreurs. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Peut-être qu'il n'a pas du tout compris. Peut-être qu'il n'a pas compris les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'il n'avait pas les outils qu'il faut. Peut-être qu'il n'avait pas compris que le délai était serré. Peut-être qu'il n'avait pas compris que le budget n'était pas évident. Que c'est la dernière chance dont nous disposions. Donc, on dit souvent que lorsque un leader réussit avec les autres, il faut qu'il puisse leur expliquer les pourquoi. Il faut qu'il puisse leur expliquer les enjeux. Et quand on n'a pas expliqué les enjeux aux gens et que les gens n'ont pas été à la hauteur de nos attentes et que nous sommes frustrés après, c'est inutile. C'est inutile parce que nous sommes frustrés, parce que nous nous disons, il doit être impeccable. Peu de gens sont impeccables. Ça nous arrive à nous aussi de ne pas être impeccables. La dernière fois, j'étais en train de travailler avec une coachée qui me dit, ben voilà, les collaborateurs, c'est pas possible. Vous savez, moi, c'est un travail que moi, je réussis. Quand moi j'étais à leur place, quand mon supérieur hiérarchique me confiait du travail, je savais le faire de façon impeccable. Je savais planifier mes tâches. J'étais autodiscipliné. On n'avait pas besoin de me relancer avant que je ne fasse le travail. J'ai dit, mais ça c'est vous ça. Ça c'est vous. Vous êtes impeccable. C'est pour cela que vous êtes à un niveau de leadership. Vous avez eu la promotion parce que vous étiez impeccable. Mais je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie, sur des aspects donnés de votre vie, vous avez eu besoin d'accompagnement, de compréhension. De patience de la part de votre supérieur hiérarchique. Et c'est tellement on vous a donné cette compréhension, de cette patience-là. Il est de votre responsabilité maintenant de comprendre que les autres ne peuvent pas forcément être parfaits parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'être parfaits, parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire, parce qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire. L'autre chose importante que les leaders font pour ne pas se frustrer, ne pas devenir victime face aux défaillances des autres, c'est qu'ils choisissent clairement de leur trouver des circonstances atténuantes. Quand une personne est en retard, je dis, ouh, tu sais, peut-être parce qu'il est tombé dans les embouteillages. Quand une personne doit me payer de l'argent et que cette personne n'a pas les moyens, n'arrive pas à payer, ou tu sais, c'est tellement qu'il a des défis financiers actuellement. Je lui trouve des circonstances atténuantes. Je lui trouve des circonstances atténuantes parce que chaque personne qui a des défaillances pour des raisons données. Au tribunal, lorsque le juge réussit à trouver des circonstances atténuantes aux gens, il est plus clément. Et pourquoi il est plus clément? Parce qu'il est plus compréhensible. Pourquoi il est plus compréhensible? Parce qu'il rentre dans le monde de l'autre. Donc, il y a une possibilité pour nous de rentrer dans le monde du collaborateur. Vous dites, vu les moyens dont il dispose, ce n'est pas évident pour lui. Ce n'est pas évident pour lui. Quelqu'un m'a dit, mais comment on fait pour trouver des circonstances atténuantes aux autres? En se disant, mais tiens, ok, est-ce qu'il a la même expérience que moi? Est-ce qu'il a les mêmes moyens que moi? Est-ce qu'il a les mêmes outils que moi? Est-ce que peut-être il a bien compris? Est-ce que peut-être il n'a pas de défis avec sa famille, avec son époux, avec son épouse? Est-ce que tout se passe bien pour lui? Est-ce que la chose a été toujours facile pour lui? Est-ce que la vie est facile pour lui? Et nous savons très bien que la plupart de nos collaborateurs, les choses ne sont pas évidentes pour eux. La vie n'est pas toujours facile pour eux. Et donc, quand ils rencontrent des difficultés, à nous de rentrer dans leur monde, pour trouver des raisons pour lesquelles c'est peut-être normal qu'ils se produisent ainsi, qu'ils se comportent ainsi. Ce qui m'amène à la cinquième chose que les leaders font pour ne pas se frustrer et ne pas devenir victime, ne pas s'énerver face aux défaillances et aux mauvaises attitudes des autres. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils pratiquent ce qu'on appelle le principe de la normalité constante. Et il est normal qu'une personne ne soit pas à la hauteur des attentes. Il est normal qu'une personne ne fasse pas toujours les choses telles que je veux. Compte tenu de quoi? Compte tenu de son expérience, compte tenu de ce qu'elle a eu à vivre, compte tenu de sa façon de voir les choses, compte tenu de sa conception des choses. Un jour, un collaborateur est complètement passé à côté de la plaque quand nous étions à une réunion. Il a perdu les moyens. Il a perdu les moyens. Et puis quelqu'un m'a dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme ça? Et je dis, mais ce qu'il a fait, c'est lié à sa capacité de maîtrise émotionnelle. Ses moyens de maîtrise émotionnelle lui ont permis de faire ce qu'il a pu faire. Il n'a pas d'autres moyens. Il aurait pu avoir d'autres moyens. Il aurait pu être davantage à la hauteur. Mais il a pu faire ce pour lequel il a les moyens. C'est ce que sa formation lui permet de faire. Imaginez un instant que vous rencontrez une personne qui n'est pas de même culture que vous, qui n'est pas de même origine que vous, qui n'est pas de même éducation que vous, qui n'a pas la même expérience que vous. Et la personne a une attitude, et vous trouvez l'attitude bizarre. Mais elle est normale. Cette attitude est normale compte tenu de son éducation, compte tenu de ses origines, compte tenu de son parcours, compte tenu des difficultés qu'elle a connues peut-être dans sa vie et dans sa carrière. Donc, on peut trouver des circonstances atténuantes aux gens en se disant, vu, quand vous n'êtes pas dans le même monde qu'une personne, il est normal que la personne fasse des choses que vous trouvez bizarres, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas dans le même monde qu'une personne, vous êtes étranger à une personne, il va de soi que la personne ait des attitudes. Il est normal que la personne ait des attitudes qui soient étranges. Parce que la personne est un étranger. Vous n'êtes pas dans le même monde. Quand on n'est pas dans le même monde qu'une personne, cette personne a des attitudes qui sont complètement différentes de nous. Des attitudes que nous avons. Quand on n'a pas les mêmes normes qu'une personne, il est normal qu'elle ne respecte pas nos normes. Donc le leader doit commencer par pratiquer le principe de la normalité constante. Vous parlez à une personne et puis elle perd les moyens. Parce qu'elle n'en a pas, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas la maturité nécessaire. Vous blaguez avec une personne et elle le prend mal. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne ne supporte pas les blagues. Donc c'est normal. Le principe de la normalité constante est que quand une personne a une attitude, je me dis, ok, c'est normal qu'elle ait cette attitude parce que peut-être nous ne partageons pas les mêmes principes. Nous ne partageons pas les mêmes normes. C'est normal. Les attitudes des autres sont normales. Les défaillances des autres sont normales. Normal compte tenu de leurs moyens. Normal compte tenu de leur niveau de maturité. Normal compte tenu de leur niveau de leadership. Normal compte tenu de leur niveau de leur expérience, leur éducation, les outils dont ils disposent. Normal parce qu'ils n'ont pas compris les tenants et les aboutissants. Donc, le leader doit constamment se dire, c'est normal qu'il réagisse ainsi. Ceci est essentiellement lié aux moyens dont il dispose. Ceci est essentiellement lié à son éducation. Ceci est essentiellement lié à sa capacité à encaisser. Ceci est essentiellement lié à sa capacité à traiter les informations. Ceci est essentiellement lié à son niveau d'intelligence. Ceci est essentiellement lié. C'est normal qu'il réagisse ainsi. Et à moi, je dis maintenant, comment je fais pour l'accompagner? Comment je peux l'amener à comprendre davantage? Comment je peux faire, si c'est les outils qui lui manquent, comment je lui donne plus d'outils? Si c'est l'expérience qui lui manque, comment est-ce que je lui donne plus d'occasions d'avoir plus d'expérience? Donc c'est à moi de revenir à moi-même et de me dire exactement sur quoi je vais travailler avec lui. Parce que vu ce qu'elle a, vu ce qu'elle est, vu ce qu'elle fait, c'est normal. Vu son expérience, c'est normal. Le principe de la normalité constante, quelles que soient les attitudes que les autres ont, vous dites, c'est normal. Vu son niveau, on ne sait jamais, hein. C'est peut-être ce que son niveau lui permet de faire. C'est peut-être ce que sa maturité lui permet de faire. C'est peut-être sa capacité de maîtrise émotionnelle lui permet de faire. C'est peut-être ce que son intelligence émotionnelle lui permet de faire. À partir du moment où on commence par trouver normal qu'une personne agisse de façon différente par rapport à nous, parce que de toute façon, c'est nous qui sommes en position de leadership, et dire, nous allons commencer par avoir des circonstances atténuantes à l'égard des autres. Nous allons moduler nos exigences à l'égard des autres. Nous allons commencez pas à dire, bah tiens, je peux pas m'attendre à ce qu'il soit impeccable. C'est à moi de l'accompagner pour qu'il soit impeccable. Et quand nous commençons pas à comprendre que c'est à nous d'accompagner les gens pour qu'ils soient impeccables, nous comprenons que le travail d'accompagnement, le travail de formation, le travail de coaching devient, que nous on a fait à notre niveau, devient alors une exigence que nous devons absolument mettre en branle. Et c'est à nous d'élaborer un plan d'accompagnement pour aider ce collaborateur, pour aider ce partenaire à reprendre du poids de la bête, à retrouver les fondamentaux de l'exigence, de l'excellence et de la performance. Et que nous ayons toute la patience nécessaire. Si vous voulez que les gens soient impeccables, aidez-les à devenir impeccables. Si nous voulons que les gens soient impeccables, apportons-leur la formation nécessaire. Donnons-leur le temps nécessaire. La prochaine fois, nous allons dig deep, le principe de la normalité constante, pour voir comment est-ce que les managers donnent aux gens le temps de comprendre. Pourquoi? Parce que le secret numéro un du leadership, c'est la patience. Et la plupart des gens ont du mal à manifester du leadership parce qu'ils n'ont pas toute la patience nécessaire. J'ai beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'associés qui travaillent dans notre groupe. Si je devais faire preuve d'impatience, si je devais être très exigeant en termes d'excellence et de performance, ils ne seraient pas en train de travailler avec nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a que j'ai dit, au départ, je me dis, est-ce que vraiment on peut obtenir quelque chose d'intéressant avec lui? Mais parce que nous avons réussi à intégrer le principe de la patience, on a utilisé un peu plus de patience, on a pu réussir des choses extraordinaires, ils ont pu faire des choses extraordinaires à la fin. Il y a parfois, on est au bord de la rupture, mais en tant que leader, on se dit, il faut que je prenne de la hauteur. Si c'est ce niveau de les capacités à prendre de la hauteur que vous voulez atteindre, si vous voulez développer davantage vos capacités de leadership et ne plus être frustrable et fragile émotionnellement et mentalement face aux défaillances des collaborateurs, ne plus perdre les moyens au travail, ne plus vous mettre en spectacle parce que vous êtes énervé et fâché, ne plus passer des nuits difficiles parce que les gens ne vous comprennent pas autour de vous, eh bien, on a un programme de coaching sur 48 séances. Programme de coaching sur 48 séances dédié exclusivement aux managers. Ce que vous avez fait, c'est de tout simplement de cliquer sur coaching, donc sur notre page là, ou d'aller sur notre page www.asmagazines.com. Vous cliquez sur coaching et vous avez la possibilité d'accéder à la page où vous aurez des informations sur comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner de manière à manifester du leadership au quotidien, parce que vous en avez bien les moyens, mais vous avez peut-être besoin qu'une personne soit là pour vous challenger, pour faire de l'introspection, pour faire de la décontamination interne et commencer par développer ce monde interne. Tenez-vous prêt, comme j'ai dit, je travaille actuellement sur un livre qui s'appelle Le jeu mental, le jeu intérieur du leadership, et un deuxième livre qui s'appelle Le jeu mental de la performance, juste pour aider les leaders à travailler leur intérieur, à prospérer à partir de l'intérieur, à créer la performance, l'harmonie de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à atteindre des niveaux supérieurs de résultats au quotidien pour eux-mêmes et réussir davantage avec leurs collaborateurs. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous retrouver très 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 prochainement pour un nouveau numéro de notre podcast Le Leadership Gagnant, parce que mon job, et ma foi, c'est que tous, nous pouvons gagner. Et comment nous allons faire pour gagner? Ces livres que nous écrivons aussi, ces programmes de coaching, ce podcast, les articles que nous publions sur notre page internet, notre blog et sur nos pages de réseaux sociaux, c'est pour que nous puissions être sûrs de ce que ceux qui veulent aller à un niveau de leadership supérieur puissent en avoir les outils, en avoir constamment les orientations, les techniques, les méthodes pour aller mener une vie à partir d'intérieur, manifester de la croissance au quotidien, manifester de l'insolence au quotidien. Ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir été avec vous. À très très prochaine.